frère Bartimée, un évangile où on crie, un évangile où on n'a pas peur de parler fort. Alors j'aime beaucoup ça puisque je parle toujours très fort, donc on peut se reconnaître si vous aimez à crier. En tout cas, dans cet aveugle qui ne va pas se taire jusqu'à ce que le Seigneur le puisse rencontrer. Je vous propose de voir d'abord justement cette manière d'aller à la rencontre du Christ. Et ensuite, quel est le désir, une fois qu'on est allé jusqu'au Christ, quel est le désir qui anime cet aveugle que nous sommes, bien entendu. Tout d'abord, il faut chercher à voir le Christ et il crie. Il crie, il a entendu, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont de l'audition, vous savez, les sens sont les fenêtres de l'âme, et ici, dans cet évangile, ce sont des choses qu'on entend, c'est normal, puisqu'il est aveugle, et il entend le Seigneur passer. Alors il se met à crier « Aie pitié de moi, fils de David ». Fils de David, c'est un titre qu'on donne souvent au Seigneur. Souvent, il va refuser ce titre comme étant trop d'ordre temporel. Ici, il ne semble pas le refuser. Il faut dire que nous sommes tout près de la dernière montée à Jérusalem, celle où, pendant les rameaux, on va crier « Fils de David ». Alors il crie « Fils de David », c'est déjà une profession de foi. Il sait que c'est le Messie. Et il lui demande d'avoir pitié. D'avoir pitié, c'est un mot qui, malheureusement, aujourd'hui, a perdu de son charme. On n'aime plus avoir pitié, on n'aime pas qu'on ait pitié de nous. Et je ne sais pas pourquoi. Si, ou plutôt je sais, je ne le sais que trop, c'est parce qu'on aimerait tellement se suffire à nous-mêmes. N'ayez pas peur d'avoir pitié. La pitié, c'est quand votre cœur s'émeut de la misère des autres. L'autre nom de la pitié, c'est la miséricorde. La pitié n'est pas un sentiment misérable ou un sentiment de mépris envers quelqu'un. Si vous méprisez les gens, c'est votre problème. Mais la pitié n'est pas un mépris. La pitié est une émotion que vous éprouvez envers la douleur des autres. J'espère que vous avez le cœur à avoir pitié. J'espère surtout que vous désirez la pitié de Dieu, c'est-à-dire que... Dieu ne peut qu'avoir pitié de nous, c'est-à-dire qu'il ne nous doit rien et notre propre bonheur n'ajoutera rien au sien. C'est dire que c'est uniquement sa pitié, c'est le fait qu'il puisse compatir, qu'il puisse avoir de la douleur pour nous, qu'il puisse vouloir se pencher sur nous, qui fait que nous serons sauvés. Alors oui, moi, j'aimerais beaucoup que le Seigneur ait pitié de moi, comme cet aveugle, car je sais mon péché, je sais mon aveuglement, je sais ma petitesse, et je veux que Dieu ait pitié de moi. Alors autour du Seigneur, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de disciples et une foule nombreuse, et évidemment la première chose que la foule va faire, c'est de dire « Tais-toi ». Tais-toi, je reviens de pèlerinage avec 6 couples et 17 enfants de moins de 13 ans, alors forcément... Souvent, dans ce pèlerinage, on a dit bah, « tais-toi ». Dans l'avion, pas trop de bruit. Sur le lieu de pèlerinage, pas trop de bruit. Dans l'église, pas trop de bruit. Mais non, il faut crier vers le Seigneur. Alors, je ne suis pas en train de prêcher le désordre, parce que bien entendu, il faut pouvoir se rassembler de temps en temps. Mais il est important de pouvoir crier vers Dieu. Et c'est parce qu'il va crier que le Seigneur va l'entendre. C'est parce qu'il va crier, c'est parce qu'il ne va pas se laisser impressionner par l'administration déjà qui est autour de l'Église. Je ne veux pas condamner personne, mais c'est la nature des choses. On aime bien que les choses soient ordonnées, soient bien faites. Et quand on fait parfois une demande à l'Église, eh bien, on vous donne un papier à remplir, le formulaire, voilà. J'espère pas trop souvent. J'espère que nous avons le goût, quand on nous demande quelque chose, de ne pas renvoyer les gens vers une procédure quelconque, mais que nous pouvons écouter le cri de la détresse du pauvre qui nous appelle. Alors, grâce à cet appel malséant, grâce à ce désir profond qu'il a, le Seigneur va l'entendre. Et chose étonnante, alors qu'ils peuvent certainement se parler, le Seigneur ne va pas l'appeler directement. Il va dire à ses disciples, peut-être qu'il y a beaucoup de monde, « Allez le chercher ». Et c'est des disciples qui vont trouver l'aveugle et qui lui disent « Lève-toi, il t'appelle ». C'est vous, les disciples du Seigneur. Ici, moi, dans la célébration de ce Saint Sacrement, je tiens la place du Christ, le temps de la célébration. Mais vous tenez la place des apôtres, des disciples qui sont autour. C'est à vous qu'il appartient d'aller chercher ceux qui sont dehors et qui crient leur détresse dans ce monde, les désespérés, les déprimés, les malheureux, les insensés, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il vous appartient, c'est l'ordre que je vous donne au nom du Christ. Allez, allez les appeler, allez leur dire que le Seigneur les appelle et les attend. Qu'ils se lèvent, c'est-à-dire qu'ils se mettent debout dans l'évangile en grec, c'est le mot de la résurrection, egegertai, qu'ils se lèvent, que déjà ils participent de la victoire du Christ, car Dieu les appelle. L'aveugle ne va pas s'y tromper, il y a deux verbes. D'abord, il bondit, car on ne peut pas aller vers Dieu doucement. Je me souviens d'avoir un jour baptisé quelqu'un qui s'était converti de l'islam, et il savait pourquoi il avait choisi le Christ. Il habitait dans une tour à Clichy-sous-Bois, et c'était pas facile de se convertir. Et alors, un jour, il était venu me demander, mais en aparté, pour faire de peine à personne, « Mon père, est-ce que c'est normal que les chrétiens soient toujours si mous comme ça ?» Eh bien, je lui dis non, c'est pas normal et en même temps, c'est la nature des choses. Car la pente naturelle de l'homme, c'est la descente, c'est ne plus rien faire. Alors, il nous faut bondir. Je vous invite à bondir et à crier de joie et à remonter sans cesse dans le train de la grâce, c'est-à-dire à aller vers Dieu avec ardeur, car Dieu nous attend. Oui, il nous faut bondir nous aussi et nous lever, car Dieu nous appelle. Voilà, c'était mon premier point, aller à la rencontre du Christ, c'est un objectif réjouissant et il ne faut pas oublier cette joie. Alors, une fois qu'on rencontre le Christ, maintenant, que va-t-il se passer ? La rencontre est étonnante ici, peut-être déroutante. Il a crié comme un fou, il a bravé les interdits, on lui a dit de se taire, on l'a un peu engueulé, et il le rabrouait, dit l'Évangile, qui parle de manière plus polie que moi. Et le Seigneur enfin le voit, ils sont face à face, et là, de manière très déroutante, le Seigneur lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais on a envie de dire au Seigneur, c'est évident, il est aveugle, il a pas, il peut pas travailler, il peut rien faire, vas-y, dépêche-toi, guéris-le, qu'il voit. Le Seigneur va prendre son temps, il va attendre la réponse de l'homme et il va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi ? Dieu qui m'a créé sans moi ne me sauvera pas sans moi, Dieu ne va pas me violenter. Ce qui nous lie à Dieu, c'est un acte de foi, c'est un amour intense, car il n'est qu'amour, et l'amour exclut par essence la contrainte et la violence. Alors le Seigneur, avec une infinie délicatesse, va lui demander, va lui permettre d'exprimer ce qu'il désire vraiment. Cette question s'adresse à nous, bien sûr. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il va lui dire deux choses. D'abord, il va lui dire un acte de foi, « Rabbouni ». Il n'y en a que deux dans l'Évangile qui appellent le Seigneur « Rabbouni ».« Rabbi », c'est « maître ».« Abba », c'est « père ».« Rabbi », c'est le père « maître ». Et « Rabbouni », c'est « mon petit père à moi ». C'est un titre de tendresse, de délicatesse, d'amour. L'autre personne qui dira ça, c'est Marie-Madeleine au Jardin des Oliviers, quand elle... Après s'être trompée, avoir pensé trouver le jardinier, qu'elle le reconnaît, elle dira « Rabbouni ». Ici, l'aveugle fait cet acte de foi, et je vous invite tout à l'heure dans l'Eucharistie, quand vous approcherez, c'est un acte d'abord spirituel, plus exactement c'est un acte réel parce qu'il est spirituel, à dire au Seigneur, à lui donner le titre de votre cœur, celui qui vous fait reconnaître le Christ comme votre Seigneur et Maître, le vôtre, celui de votre vie. Et alors il lui demande, c'était l'évidence, « Seigneur, que je vois, Seigneur, que je vois, afin que je puisse vivre pleinement, afin que je puisse être heureux, Le bonheur, c'est la plénitude de l'être. Il lui manque quelque chose pour un homme qui est de voir. Bien entendu, c'est la vue qu'il demande, la vision terrestre. Mais bien entendu, puisqu'il va suivre le Christ, c'est la vision éternelle. Il va lui demander de voir ce que les anges voient. Comme le dit le Seigneur, ce que vos yeux ont vu, beaucoup de prophètes ont voulu le voir. Ce que vous savez, beaucoup de gens aimeraient le savoir. Ce que vous croyez, beaucoup d'hommes aimeraient le croire. Alors nous avons cette chance, il nous faut désirer intensément de voir Dieu, car c'est le but de notre vie. Cette vie terrestre ne va pas s'en trouver diminuée, au contraire, elle va s'en trouver anoblie. Ce que nous voulons voir, c'est Dieu. Ainsi, le voyant, nous allons pouvoir le suivre, d'abord en cette vie, puis dans l'autre. Le bonheur, la béatitude, la plénitude de l'être ici qui est de voir, de marcher, de penser, d'exercer tous nos actes naturels de l'homme, sera dans l'éternité d'exercer toutes nos facultés surnaturelles, c'est-à-dire d'aimer. Demandez au Seigneur qu'il vous fasse voir son salut, celui qu'il a préparé pour vous, celui du chemin qui vous est personnel, que vous puissiez voir le Christ maintenant.